Radio Canu, la plus rebelle des radios. Caesar, hear me, the merchant of Venice, couldn't say your CD. As for me, all's well that ends well. Your boy is like Macbeth, you're going to hell. Measure for measure, I am the best here. Your merry wives, the winds are not King Lear. I don't know about tomorrow, I know all's in Athens. I come back like Hamlet, you pay for your actions. Bonsoir.
Bonsoir.
Il est 19h passé de 3 minutes. Nous sommes le mercredi 29 avril et c'est l'heure du Canu Info. Ce soir, au programme, donc reprise de dialogue pour les agents de la métropole.
Ensuite, on va parler de Ryanair qui s'est fait hacker 5 millions de dollars.
L'armée française, assassin et violeur, est récompensée.
Ensuite, on aura une interview d'une personne de Sortir du Nucléaire par rapport à la loi Macron et la réversibilité des déchets nucléaires votés. Si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire, eh ben, ce sera le moment d'écouter l'interview.
Et ensuite, une interview par rapport à la pression policière qui a été faite sur des personnes roms à l'école Michel Servan dans le premier arrondissement.
Et ensuite, on finira ce Canu Info par la traditionnelle rubrique « Il faut que ça se sache ». Alors, reprise de dialogue pour les agents de la métropole. Depuis plusieurs mois, les agents de la métropole se mobilisent pour ne pas voir leurs acquis sociaux se désintégrer. Alors, on le rappelle, les agents de la métropole sont composés des anciens agents du département et ceux du Grand Lyon. Gérard Collomb, le chef de la métropole et donc leur patron, a en gros, pour résumer la situation, le département et le Grand Lyon n'avaient pas tout à fait les mêmes conditions de travail, avec un très léger avantage pour le Grand Lyon. Les syndicats réclamaient donc l'alignement sur le régime le plus favorable et bien sûr Gérard Collomb s'y opposait. Alors, on rappelle tout de même que pendant que Gérard Collomb s'opposait à cet alignement sur le régime favorable, eh ben les élus de la métropole s'étaient voté une petite augmentation de 20% sur leurs indemnités. Parmi les actions menées par l'intersyndicale, le 23 mars dernier, les agents s'étaient introduits dans le hall de l'hôtel de la métropole pendant un conseil. L'intersyndicale avait été assez surprise de l'accueil qui lui avait été réservé, parce qu'on rappelle quand même que c'était une pratique assez courante de débouler comme ça dans les conseils. Et donc elle avait été assez surprise, puisque les CRS les avaient délogés manu militari et ont embarqué deux personnes et un représentant du personnel avait été blessé. Aujourd'hui, à 17h, l'intersyndicale était de nouveau reçue par Gérard Collomb, qui a apparemment décidé de réouvrir le dialogue. Collomb qui, depuis le début, balaye les revendications des salariés en argumentant le fait qu'il y a des, je cite, « impératifs de réduction des dépenses de personnel ». Vous comprendrez bien ce que ça veut dire. Donc Gérard Collomb a été accueilli par les salariés avec des sacs poubelles remplis de la revue Côté Cour, Côté Jardin, ainsi que des courriers envoyés par lettre par Gérard Collomb. Et là, les syndicats comptent bien lui montrer qu'avant de faire des réductions de personnel, il pourrait commencer par faire des économies de papier en diffusant ses courriers et ainsi que la revue par mail, ce qui ferait une grosse réduction de coûts hein, déjà. Si jamais les négociations ne donnent rien, les salariés sont prêts à de nouvelles grèves. On vous tiendra au courant de la suite. Et on va parler de Ryanair qui s'est fait hacker 5 millions de dollars.
Pas mal.
C'est pas mal, hein. Alors, c'est un groupe de hackers qui a réussi à dérober à la compagnie aérienne cette somme sur un de ses comptes. Alors, d'après la société, les pirates ont réussi leur hold-up par un, je cite, transfert électronique frauduleux passé via une banque chinoise. Bon, c'est un peu flou, mais on ne sait pas plus pour l'instant. Ryanair précise que ce compte sert à payer ses factures de kérosène. Alors si vous prenez un avion chez Ryanair dans les prochains temps, ne soyez pas surpris si une quête est mise en place à l'entrée de l'avion pour qu'il puisse faire le plein et décoller.
« Alors, on va attaquer par l'info du jour sur la France-Afrique, où, selon le journal britannique qui s'est procuré un rapport secret de l'ONU, les soldats français, certains soldats français sont accusés de viol et de sodomie sur des mineurs, c'est-à-dire précisément des enfants. Donc ces soldats sont accusés d'avoir violé en particulier des jeunes garçons dans un centre de réfugiés à Bangui, la capitale centrafricaine, c'était en 2014. Selon du coup ce rapport qui a été un petit peu fourgué au Guardian par un fonctionnaire de l'ONU qui depuis a été démis de ses fonctions. Les abus ont été commis par des soldats qui appartenaient à la MINUSCA, donc la mission de paix de l'ONU dans le pays. Le Guardian fait état de viol, de sodomie sur ces mineurs, généralement des orphelins, placés sous la protection des soldats dans un camp qui accueillait des déplacés qui avaient fui les zones ravagées par le conflit dans le pays. Le Guardian explique que, ouvrez les guillemets, des enfants décrivent comment ils ont été sexuellement abusés en échange de nourriture et d'argent. Un enfant de 9 ans explique avoir été agressé sexuellement avec son ami par deux soldats français à un moment où ils étaient allés à un checkpoint pour chercher de la nourriture. Contacté par le site France TV Info, l'armée française n'a bizarrement pas souhaité de faire de commentaires sur ces révélations. Et donc voilà, c'est un responsable de l'ONU, un gars qui s'appelle Anders Kompass, qui a été suspendu la semaine dernière pour avoir transmis ce rapport aux autorités françaises, en espérant que les autorités françaises seraient un peu plus promptes que les Nations Unies à faire quelque chose, parce que les Nations Unies, en réalité, c'est pas du tout la première fois qu'il y a des scandales de viol, et en particulier de viol sur des mineurs, dans le cadre de missions des Nations Unies, et généralement il se passe pas grand chose, et là en l'occurrence ça fait un moment que ce rapport existe à l'intérieur des Nations Unies, et qu'il se passe plutôt strictement rien. En l'occurrence, la France, mais aussi sans doute parce que c'est sorti dans le Guardian, a lancé une enquête. Bon, heureusement, le gouvernement français en profite pour prendre des mesures un peu de fond dans son rapport avec l'armée. Alors aujourd'hui, il y a eu un conseil de la défense. Alors bien sûr, c'était pas exactement là-dessus, c'est quand même un peu... ça tombe le même jour. Un conseil de la défense qui réunissait les principaux responsables politiques et militaires. La décision qui en est ressortie, et donc qui a été triomphalement annoncée à la sortie du conseil par le président de la République lui-même, c'est l'augmentation de 3,8 milliards d'euros du budget de l'armée par rapport à ce qui était prévu. Normalement, ce budget aurait dû baisser cette année, comme depuis quelques années, là, parce que restrictions budgétaires. Et alors voilà, la loi de programmation militaire, celle qui a été votée en 2013, prévoyait un budget de 31,4 milliards d'euros en 2015 et 7500 suppressions de postes par an pour 2015, 2016, 2017. Le budget sera donc finalement de 35,2 milliards pour cette année et les 7500 suppressions prévues pour 2015 n'auront tout simplement pas lieu. Alors toute une série de raisons à ça. Bizarrement, les histoires d'exportation d'armes. Donc la France gagne du blé, mais en fait, il va quand même falloir raquer avec nos impôts pour des raisons qui sont expliquées comme ça dans Le Monde. Je vais vous les lire telles qu'elles sont. Les exportations atteignent le chiffre record de 10 milliards d'euros par an. Rafale et frégates en Égypte, équipements de l'armée libanaise, hélicoptères en Pologne, satellites aux Émirats Arabes Unis, etc. La France se gave en vendant des engins de mort dans le monde entier.
Ah, c'est marrant, il ne parle pas de l'Ukraine.
Non. C'est... commandes viennent pourtant s'intercaler dans les propres achats de l'armée française, qui peut du coup voir ses livraisons différées. Bon, on pourrait se dire, du coup, si les livraisons sont différées, c'est pas la peine de payer tout de suite, mais visiblement, le calcul doit pas être exactement comme ça. Elle comporte aussi un volet de formation qui mobilise des effectifs. Oh là là, au Liban, 60 officiers et sous-officiers français vont ainsi être employés pour aller expliquer aux Libanais comment on fait pour se servir des saloperies qu'on leur a vendues. Donc, bien sûr, c'est important de garder un budget pour pouvoir payer d'autres gens pour remplacer ces officiers ou sous-officiers qui manquent tellement pendant ce temps sur les autres opérations de l'armée. Donc, à la fin, on vend des armes, mais ça nous coûte des sous. C'est terrible. C'est pour ça qu'il faut quand même filer de la thune au bidas. Et puis, il y a cette fameuse histoire des deux porte-hélicoptères Mistral qui devaient être vendus à Poutine et que finalement, François Hollande a quand même...
à vendre à l'Ukraine.
Presque un peu courageusement, ou je sais pas quoi, décider de pas lui fourguer, moyennant quoi ça va quand même coûter 1,2 milliard d'euros. Ça compte. Alors après, qu'est-ce que fait l'armée française? Les opérations extérieures. Au cours de l'année 2014, la simultanéité de nombreux engagements a conduit les armées au bord de la rupture. Avec 9000 soldats à l'extérieur, elles sont déployées au-delà du contrat qui avait été fixé par le fameux livre blanc des armées. Donc les armées françaises sont au Sahel, 3500 soldats, Centrafrique, 1700, Irak, 800, Liban, 850, Golfe de Guinée, un navire, sur le front est de l'Europe. Alors ça, du coup, c'est l'Ukraine. Avions et blindés, mais aussi moyens de renseignement là-bas. Et il faut ajouter à ça l'assistance aux forces africaines contre Boko Haram. Bon, vous aurez remarqué que dans les pays que je viens de citer, il y en a un petit paquet qui sont africains. Vous en tirerez les conclusions que vous voudrez sur la fin qui est perpétuellement annoncée de la France-Afrique. Le retrait qui avait été planifié de Centrafrique, donc normalement moins 1000 soldats fin 2015, ça dégagera finalement pas beaucoup de moyens et il faudra partager une sorte de surcoût opération extérieure qui dépasse 1 milliard par an et le partager avec les autres ministères, c'est-à-dire que du coup finalement c'est aussi ça veut aussi dire qu'en réalité c'est pas du tout que au ministère de la Défense qu'on va prendre de la thune pour ça. Mais alors surtout, depuis le début janvier et les attentats qu'il y a eu à ce moment-là, depuis que la France entière tient, comme les décideurs de Canut d'ailleurs, à éprouver toute cette tendresse et cette solidarité un peu pour Charlie, si on veut pas avoir l'air de tapette, il faut bien augmenter, il faut bien accompagner ces sentiments d'un discours et surtout d'une politique qui soit réellement décidée et martiaux. Alors, qu'on se le dise, on est en guerre contre les musulmans. Ah non, je voulais pas dire les musulmans, contre les djihadistes. Vous avez compris, voilà. Partout autour de la planète, mais surtout sur le sol hexagonal. Et donc, la défense doit répondre à la demande présidentielle de placer sur le territoire national en permanence une force protectrice de 7000 soldats, deux fois plus importante que dans l'ancien plan Vigipirate. Donc voilà, tous les troufions que vous croisez dans la rue là. Pour disposer de 7000 hommes, il faut bien comprendre qu'en réalité, il en faut trois fois plus, il en faut 21 000 parce qu'ils dorment, parce qu'ils s'entraînent, parce que tout ça. Donc la force opérationnelle terrestre fixée à 66 000 soldats dans le livre blanc doit donc être augmentée. Le déploiement qui a été encore décidé après les attentats de janvier de 10 500 hommes, qui est devenu l'opération Sentinelle, ne pouvait durer au-delà de 4 semaines compte tenu des moyens disponibles. Alors voilà, du coup, ça réduit les préparations aux opérations extérieures, des formations qui ont été annulées, des congés qui ont été annulés. Bon, si on veut continuer tout ça, en gros, il va falloir réembaucher du monde, il va falloir de la thune. Voilà. Et enfin, les nouvelles priorités qui vont coûter du blé. Alors, l'exécutif a décidé de renforcer les moyens dans quatre grands domaines. Ainsi, plusieurs centaines de créations de postes sont attendues dans la cyberdéfense, en plus des lourds investissements déjà lancés dans la loi de programmation militaire, donc 1 milliard d'euros et 500 recrutements. Deuxième priorité, le renseignement. Alors ça, effectivement, on n'a pas arrêté d'entendre parler depuis le mois de janvier, là, qui mobilise déjà environ 6 milliards d'euros dans la fameuse loi de programmation militaire. Des effectifs ont été attribués en janvier à la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, donc la DGSE, et d'autres sont annoncés, notamment à la Direction du Renseignement Militaire. Des achats vont être accélérés, des drones, des satellites optiques, des machins et des trucs. En troisième lieu, un plan d'équipement en hélicoptère sera lancé pour renforcer l'aérocombat. Attention, terroristes, faites attention, vous risquez de vous faire flinguer par des hélicoptères en pleine place Bellecour. Et enfin, les forces spéciales toucheront de nouveaux matériels, parce que c'est bien joli tout ça, mais il faut quand même vraiment pouvoir frapper fort. À l'occasion de cette revue, des corrections seront apportées au programme d'armement en cours. C'est le cas pour l'A400M d'Airbus. Des livraisons de cet avion de transport militaire traînent et l'appareil ne permet pas de larguer comme prévu des parachutistes. Dans l'urgence, la France va acquérir des surétagères, c'est-à-dire des trucs... Hein, voilà, là, je suis en train de dire quelque chose auquel je ne comprends pas grand-chose parce que c'est finalement du vocabulaire technique des trucs d'armée. En tout cas, voilà, on va avoir du matos en plus et j'ai terminé.
Eh bien, pour rester dans de sombres nouvelles, on va continuer en parlant du nucléaire et notamment de la loi Macron, puisque la réversibilité des déchets nucléaires est un amendement de la loi Macron, une loi fourre-tout qui a été votée au Sénat donc le samedi 18 avril à 5h du matin. En pleine discussion sur la loi Macron, le sénateur UMP de la Meuse, Gérard Longuet, a fait voter la réversibilité de l'enfouissement des déchets nucléaires sur le futur site de Cigéo à Bure, dans la Meuse. Donc, pour mieux comprendre les enjeux sociaux que pose un site d'enfouissement des déchets radioactifs, donc nous avons invité à ce Canu Info Laura, qui est chargée de campagne de sortir du nucléaire.
Bonsoir.
Bonsoir. Donc, merci d'être venu. Donc, peux-tu, avant de parler de la réversibilité, mieux nous expliquer, nous réexpliquer un peu ce qui va se passer à Bure et le projet du groupe Cigéo?
Ouais, bah alors du coup, je vais peut-être faire un tout petit historique en fait, et puis pour faire le lien avec ce qui a été dit avant, ce qu'il faut savoir, c'est que le nucléaire en France a d'abord été lancé à des fins militaires, donc après-guerre, hein, par De Gaulle, qui a cherché à doter la France de l'arme atomique. Et c'est que dans les années 70 que la France a lancé son programme dit nucléaire civil, et où on a commencé à vouloir implanter massivement des centrales nucléaires un peu partout sur le territoire français. Aujourd'hui, on en a 58, et à l'époque, on savait très bien que les centrales nucléaires produisaient des déchets, mais évidemment, on ne s'est absolument pas préoccupé de ce qu'on allait en faire et de leur éventuelle, en réalité, impossible gestion. Dans les années 80, l'État a souhaité lancer des recherches pour un centre d'enfouissement, plutôt des centres d'enfouissement. Donc ils ont lancé des prospectives un petit peu partout en France. Évidemment, ils se sont fait jeter de partout. Ils ont dû faire face à des grosses révoltes des populations. Et ça a été vrai dans quasiment toutes les régions de France, en tout cas dans toutes les régions où ils ont cherché à implanter un centre d'enfouissement de ces déchets les plus radioactifs. Du coup, dans les années 90, ils ont changé de stratégie. Ils se sont dit, peut-être que pour faire passer la pilule, ce qui serait bien, c'est de lancer des projets de laboratoire. Donc, on va essayer de vendre aux élus et aux populations locales simplement des labos, où l'idée, ça va être d'étudier la propriété de la roche pour voir si, à terme, on pourrait éventuellement enfouir un jour peut-être des déchets nucléaires. Donc à l'époque, il devait y avoir au moins deux laboratoires dans deux types de roches différentes, le granit et l'argile. Et puis finalement, l'État s'est à nouveau fait jeter de partout, sauf à Bure, dans la Meuse. Et donc il n'est resté que ce village pour accueillir un laboratoire de l'ANDRA. Donc l'ANDRA qui est l'Agence Nationale de Gestion des Déchets Radioactifs, qui est une agence d'État. Et donc Bure, c'est dans la Meuse, c'est un tout petit village de 92 habitants, évidemment qui n'a pas été choisi au hasard, hein, parce que c'est à peu près, il me semble, c'est entre 8 et 9 habitants au kilomètre carré. Donc
c'est la région la moins peuplée de France.
C'est ça, ouais. L'équivalent, je crois, le département de la Meuse, ça doit être un bon 200 000 habitants, donc c'est même pas l'équivalent d'une ville de Lyon, enfin d'une ville comme Lyon, quoi. Et donc voilà, c'est dans les années 90, plus précisément en 94, que l'État a ciblé ce secteur de Bure pour implanter son fameux labo. Et l'ANDRA y est présente depuis 1999, où un laboratoire a été implanté. Il faut bien savoir aujourd'hui qu'il n'y a pas de déchets radioactifs à Bure, contrairement à ce qu'on entend souvent, c'est vraiment un laboratoire de recherche en couche géologique. Et donc depuis en fait 2012, l'ANDRA a lancé son projet en phase industrielle et le fameux projet Cigéo. Alors Cigéo, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un site, mais trois sites en même temps. Donc il va y avoir un centre d'enfouissement à 500 mètres de profondeur. Il va y avoir un centre de stockage temporaire en surface, où on va stocker les déchets en attendant qu'ils refroidissent, parce que beaucoup vont être trop chauds pour être stockés en l'état. À cet endroit-là, il va y avoir aussi un autre, enfin, il devrait y avoir, parce que Cigéo ne se fera pas, donc il faut que je parle au conditionnel.
Oui, c'est beaucoup.
Voilà. Donc, un site, il est prévu un autre site pour compacter et conditionner certains déchets qui devront être reconditionnés avant stockage. Et puis ensuite, il va y avoir une descenderie qui va faire normalement plusieurs centaines de mètres de longueur pour justement descendre petit à petit les colis en couche géologique profonde.
Et donc, qu'est-ce que ça veut dire la réversibilité des déchets dans ce, sur ce site Cigéo?
Et bien justement, en fait, la réversibilité, c'est une grosse arnaque. C'est une notion qui a été inventée par l'État pour, encore une fois, faire passer la pilule et pour essayer d'augmenter l'acceptabilité sociale, en fait, de ce type de projet. Tout comme dans les années 90, ils ont changé de stratégie en essayant d'implanter un laboratoire, en sachant en réalité très bien que les laboratoires ou le laboratoire deviendraient ensuite des sites de stockage. C'est une notion qu'on a inventée en essayant de faire croire aux élus et à la population qu'on allait pouvoir revenir sur ce choix et qu'on allait pouvoir éventuellement changer d'avis, qu'on allait pouvoir, en cas de problème, récupérer les colis. Évidemment, ce projet, entre autres risques et dangers, pose vraiment en fait cette question du rapport aux générations futures et du legs qu'on leur donne, de la folie humaine, en fait.
Et la réversibilité, elle devait faire l'objet d'un débat parlementaire en 2016.
Tout à fait.
Et du coup, ils ont accéléré un peu les débats. Et est-ce qu'il craindrait des mouvements d'opposition, à ton avis? Parce que, pour rappel, et même si on va revenir peut-être plus tard après, il y a l'idée de faire un campement cet été sur le site, le futur site de Cigéo, etc., pour protester contre ce site d'enfouissement. Je suis pas sûre que c'est que cette contestation-là, mais le nucléaire est quand même assez contesté globalement. Donc, est-ce que c'est ça qui les pousse à accélérer et empêcher le débat?
Alors effectivement, c'est une lutte qui est peu connue, mais qui dure quand même depuis 30 ans, qui a eu de nombreuses victoires, puisque finalement, dès les années 80, les personnes qui luttaient contre l'enfouissement des déchets radioactifs ont eu gain de cause. Et en fait, les projets de l'État vont finalement d'échec en échec. On va dire depuis un an et demi, le gouvernement, en fait, et les parlementaires, donc députés et sénateurs confondus, qui sont évidemment pro-Cigéo, pro-enfouissement, essaient de faire passer cette notion de réversibilité dans toutes les lois qui passent. Donc, ils ont essayé de le faire avec la loi de transition énergétique, au moment des passages à l'Assemblée, au moment des passages au Sénat. Ils ont essayé de le faire avec la loi Macron. Donc, au départ, par voie d'article, inséré très discrètement dans des lois qui n'avaient rien à voir, et puis ensuite par le biais d'amendements. À chaque fois, c'est la montée au créneau des opposants, des assos, des collectifs, tout de suite, qui ont réagi vraiment dans les quelques heures qui ont suivi les annonces, qui ont permis, en fait, de faire sauter ces articles. Et effectivement, la réversibilité devait faire l'objet d'une loi, pas forcément en 2016, mais dernièrement, elle avait été annoncée par Royal en 2016. En tout cas, c'est eux-mêmes qui se sont imposés ce processus législatif et le fait que la réversibilité devait être définie et faire l'objet d'un débat parlementaire. Il y a de l'opposition, et puis j'ai l'impression qu'en fait, ils ont surtout envie d'éviter ce débat, parce que lancer un réel débat sur la place publique, évidemment, ça va faire ressortir les oppositions, et puis ça va vraiment faire ressortir les vrais problèmes que pose ce projet Cigéo, et tous les problèmes techniques en fait que rencontre l'ANDRA depuis quelques années. En fait, son projet est absolument pas prêt, et je pense à titre perso qu'il ne le sera jamais, puisque c'est simplement une folie de vouloir enfouir. En fait, c'est 99% de la radioactivité produite ces 50 dernières années qu'on veut enfouir à 500 mètres sous terre. Donc, c'est complètement dingue, quoi.
Ça serait le plus gros site européen d'enfouissement.
Oui, tout à
et
fait.
Et juste pour continuer sur la loi Macron, moi, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi ils sont arrivés à mettre cet amendement dans la loi Macron. Ça me semble pas si...
Ouais, alors ça, c'est complètement fou aussi. Bon, nous, c'est ce qu'on a appelé un tour de passe-passe atomique. En fait, la loi Macron, c'est une loi qui est dite économique, hein. Et ils ont justifié, après avoir échoué à insérer Cigéo et la réversibilité dans la loi de transition énergétique, à la rigueur, il y avait un peu plus un lien, on parlait d'énergie, en fait, ils ont pris l'argument de l'emploi. Mais alors, l'argument de l'emploi, en utilisant un procédé on pouvait le voir en fait dans les attendus, les exposés des motifs des articles de loi, Ils ont utilisé une unité, alors je l'ai notée parce que je la connaissais même pas. Donc ouais, en fait, ils justifiaient ça par la création de 100 000 ETP par an. Donc en fait, c'est 100 000 emplois, mais sur toute la durée d'exploitation du projet pendant 100 ans. Donc en fait, ils ont essayé de faire passer ça. Ouais, ça va être des perspectives complètement folles et superbes d'emploi pour la France. Donc on va l'insérer dans la loi Macron. En réalité, quand on fait le ratio sur une année, j'ai pas fait le calcul, mais bon, bah ça doit faire du coup 1000 emplois par an, quoi. Ouais, c'est ça.
Et si je peux préciser un petit article là que j'ai trouvé aujourd'hui, c'est en France le petit pour montrer que le nucléaire s'enfonce aussi financièrement et que c'est pas vrai que ça rebooste l'économie, puisque chacun sait que la dernière technologie vantée par les lobbies, les EPR, commence à coûter très cher et est en grande partie responsable de la quasi-faillite de l'entreprise nationale Areva. Flamanville devait être opérationnel en 2012, on envisage aujourd'hui 2017, et la facture est passée de 3 milliards d'euros à 9 milliards. Ce qui est quand même énorme, et ce dépassement de facture est d'autant plus dommageable, entre guillemets, que le contrat signé avec la Finlande stipule que tout dépassement de 3 milliards convenu serait à la charge d'Areva. Donc de la France, actionnaire majoritaire de l'entreprise à 86%. Et du coup, ça c'est le réseau Sortir du Nucléaire qui dit que la perte record atteindrait donc les 5 milliards d'euros et forcément ce coût financier serait payé par les personnes qui payent leurs impôts en France.
Ben oui, tout à fait. Même si aujourd'hui, en fait, EDF, Areva sont des entreprises qui ont des statuts privés, finalement, les actionnaires majoritaires, c'est soit le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, soit l'État. Et le Commissariat à l'énergie atomique, l'actionnaire majoritaire, c'est aussi l'État. Donc finalement, c'est les contribuables et les gens qui payent leurs impôts, qui financent le nucléaire, tout comme ils financent l'armée. Au final, ben, effectivement, indirectement, c'est chaque Français, enfin en tout cas chaque contribuable, qui va devoir payer la facture. Et la question se pose effectivement pour l'EPR d'Olkiluoto en Finlande, puisque le contrat qui avait été conclu, c'était à 3 à 3,3 milliards. Et aujourd'hui, quand on voit les coûts qui explosent, et ben, effectivement, c'est nous qui allons... devoir payer la facture.
Mais comment ça se fait qu'ils ne soient pas capables de calculer les coûts de façon sérieuse est-ce que c'est vraiment des baltringues ou est-ce qu'il y a autre chose derrière?
C'est vraiment des baltringues et effectivement, il y a autre chose derrière. À mon avis, ce qu'il faut, c'est que pour faire passer un projet, il faut que le coût soit acceptable. Bon, déjà, un réacteur à 3,3 milliards, c'est un peu cher. Mais alors, s'ils avaient annoncé dès le départ que le prototype allait coûter 9 à 10 milliards d'euros, évidemment, personne n'en aurait voulu. Donc, eux, ils avaient intérêt à annoncer un coût le plus faible possible. Et puis après, ce qui se passe, c'est qu'en fait, sur les chantiers, il y a eu de nombreux retards, de nombreuses malfaçons. Et en fait, là, le dernier en date, ça, c'est complètement hallucinant, c'est la cuve, donc, qui en fait... une énorme structure et un élément qui est fondamental pour la sûreté, puisque finalement, bah, c'est une des plus grosses parties du réacteur qui a tellement de défauts, en fait, qu'apparemment, ils ne pourront pas l'utiliser. Donc, ils parlent de la possibilité de la changer, mais en fait, ça n'a jamais été réalisé au niveau mondial de changer une cuve d'un réacteur. Donc, si ça tombe, et évidemment, ce serait une très bonne nouvelle. Alors, pas pour le porte-monnaie de l'État, mais en tout cas pour notre avenir, l'EPR ne démarrera jamais. En tout cas, il avait été... ce dont il était question, c'est qu'ils avaient 10 ans à partir du moment où ils ont autorisé la construction pour pouvoir démarrer. Et donc là, comme on arrive bientôt après les 10 ans, si ça tombe, ils vont devoir recommencer même la procédure d'autorisation quoi, pour le lancer. Et de toute façon, c'est tellement un bordel au niveau technique que c'est possible ouais, qu'ils ne, eux-mêmes ne soient jamais capables de le démarrer, de le faire fonctionner.
Mais je pense qu'effectivement, ils sous-estiment vraiment leur capacité. Ils ont l'impression d'être toujours un cran au-dessus en termes technologiques, alors qu'ils ne le sont pas. et je voudrais argumenter avec en reparlant de Fukushima par rapport à, au fait que là ils essayent de calculer les radiations dans les réacteurs qui ont fondu, le 1, le 2 et le 3. Et donc ils ont mis des robots pour aller analyser, puisque un humain ne pourrait pas y aller, il mourrait en une heure de radiation. Et ces robots, ils ont un prix. Il est question d'une dépense de 4 millions d'euros annuels. Et à la mi-avril, TEPCO a donc tenté d'envoyer un robot dans le réacteur dévasté de l'unité numéro 1 afin de tenter de localiser le corium. Donc, je sais pas si toi tu peux nous dire plus exactement, mais c'est une des particules super radioactives.
Le corium, en fait, c'est le cœur du réacteur qui a fondu, quoi. C'est tout le combustible nucléaire qui est rentré en fusion, qui a fondu, et puis évidemment qui a traversé, bah, justement, la cuve. Et on sait pas bien où il est, quoi.
Et finalement, le robot a cessé toute activité le 10 avril dernier. Il devait être capable de fonctionner 10 heures, il a échoué au bout de 3 heures. Et en fait, c'est dès Tchernobyl qu'ils se sont rendus compte que les radiations, elles venaient faire bugger les systèmes électroniques des robots. Et en fait, ils arrivent, malgré, ça fait un moment de Tchernobyl, ils n'arrivent pas à trouver, à faire fonctionner des robots. Pour essayer d'arranger la situation.
Effectivement, ouais, quand les radiations sont trop fortes, en fait, ça fait bugger tous les systèmes électriques et électroniques. Et on le voit sur certaines images de Tchernobyl, les hélicoptères qui se cassent la gueule complètement parce que justement, d'un coup, en fait, y a plus rien qui marche.
Et du coup, on pourrait se poser la question que peut-être il aurait été plus intelligent de mettre au point des robots capables de travailler dans un environnement si difficile avant de se mettre à construire toutes ces centrales nucléaires sans se donner les moyens de pouvoir intervenir en cas d'accident majeur. Et aussi, dans cet article, j'ai trouvé pour la première fois, TEPCO a présenté le 13 avril des images inquiétantes donc de l'intérieur du réacteur numéro 1. Confirmant que la radioactivité qui règne dans l'enceinte se mesure de 6 à 25 sieverts par heure, on dit comme ça, ce qui entraînerait la mort d'un homme en moins d'une heure. Bon, ça, tout le monde le savait déjà, mais voilà, mais que rien n'a, que depuis 4 ans, la radioactivité, elle n'a pas bougé d'un chouïa, quoi. Et voilà la situation de Fukushima, quand même, où il y a une grosse catastrophe, elle reste la même, c'est-à-dire que les eaux sont radioactives. Il y a 200 000 tonnes de terre souillée qui s'entassent dans des hectares, des dizaines de milliers de Japonais qui sont privés de leur habitation, qui sont installés dans des baraquements de fortune, dans des zones encore polluées pour longtemps, alors que l'État japonais les encourage à retourner dans leur maison. Et quant aux 70 milliards que l'État japonais a avancé à TEPCO, il pourrait bien attendre 30 ans pour les récupérer. Bref, en fait, on voit juste... moi, je trouve que c'est toujours bien de reciter Fukushima pour voir à quel point... ils sont complètement dépassés par les événements.
Ah, mais c'est ça, en fait. Le propre d'une catastrophe, de toute façon, quand elle se déclenche, c'est qu'elle est ingérable. Et dans le nucléaire, c'est que quand elle se déclenche, elle ne fait que commencer, en fait. Parce qu'elle va se perpétuer pendant des années, des années. Dimanche, c'était les 29 ans de la catastrophe de Tchernobyl. Excusez-moi, j'ai hésité parce que on hésite toujours à dire anniversaire, commémoration, c'est pas bien. Donc, en tout cas, ça fait 29 ans que la catastrophe de Tchernobyl continue. Il y a aujourd'hui, par exemple, 80% des enfants ukrainiens qui ont des gros, gros problèmes de santé liés à la radioactivité. Et ça peut être des problèmes cardiaques, des malformations, etc. C'est complètement fou. Et là, je sais pas si vous avez passé dans l'actualité, mais je sais plus si c'est aujourd'hui ou hier, mais il y a un incendie qui s'est déclenché dans la région de Tchernobyl. Et le fait qu'il y ait un incendie, qui en plus se rapproche de plus en plus de l'ancien site dévasté, fait que toute la radioactivité est en train d'être redégagée du sol. Des arbres qui sont en train de cramer, et donc ça redémultiplie la catastrophe et les émissions de radioactivité.
Et donc tout à l'heure tu disais donc sur le site d'enfouissement de Bure, ça serait 99% des déchets. Donc certes, ils sont...
Ben en fait, c'est 100 000 mètres cubes de déchets et c'est l'équivalent de 99% de la radioactivité. Pas des déchets, parce qu'en fait, des déchets, il y en a plein. Il y en a qui sont dits faiblement radioactifs, moyennement radioactifs. Il y en a qui vont avoir une durée de vie très courte. Et puis, il y en a, comme ceux qu'on va mettre à CIGEO, qu'on voudrait mettre à CIGEO, qui sont très radioactifs et en plus qui sont dit à vie longue, donc qui vont pouvoir dégager de la radioactivité pour certains pendant des millions, voire des milliards d'années. Donc on est sur des échelles de temps qui nous dépassent complètement. Ouais.
Donc on rajoute au final un site avec une dangerosité tout aussi grande qu'une centrale nucléaire.
Pire, puisqu'en fait on va rassembler sur un site quasiment toute la radioactivité produite par toutes les centrales pendant 40 ans.
Pour l'instant on les met où ces déchets ?
Alors ces déchets, il y en a une partie qui sont sur les sites des centrales qui les ont produits, parce qu'en général, ils y restent 18 mois, 2 ans pour refroidir. Et ensuite, ils sont envoyés à l'usine Areva de La Hague pour y être ce qu'on appelle retraités. Ce que l'industrie appelle du recyclage, en réalité, on les recycle pas du tout. On les change juste de forme. En les changeant de forme, on contamine d'autres éléments, tout ce qui est gants, les liquides, les produits chimiques, qui deviennent aussi des déchets. Donc en fait, c'est un cercle complètement vicieux.
Et moi j'avais une petite question, c'est un peu d'actualité, mais par exemple, admettons sur ce site il y a un tremblement de terre comme il s'est passé il y a vraiment pas longtemps au Népal, il se passe quoi quand ces déchets sont enfouis, s'il y a un gros séisme qui se passe à cet endroit-là ?
Eh ben je ne sais pas et eux non plus, ils ne le savent pas, mais à mon avis ça craint.
Et on en reparlera, tu voulais rajouter ?
Oui parce que du coup tu parlais de milliards d'années. Ça veut dire que les civilisations, les langues, tout ça, c'est ça a quand même une durée de vie un peu minuscule par rapport à ça. Ça veut quand même dire qu'un jour, enfin, est-ce qu'on a eu la moindre idée de comment faire pour que dans, allez, 100 000 ans, les gens sachent encore qu'il y a des déchets à cet endroit ?
Tu sais quoi, il y a des sociologues et des ethnologues qui bossent très sérieusement là-dessus. Parce que, bah ouais, non, mais franchement, les pyramides de Khéops, c'est quoi ? C'est 100 000 ans, à peu près, allez. Et on a du mal à déchiffrer leur code, etc. En tout cas, on y est allé, retourné, etc. Et effectivement, c'est une question qui se pose. Comment créer la mémoire du site et la mémoire du risque ? Et une des hypothèses, d'ailleurs, c'est... ce serait en fait de recouvrir le site chaque année de petites couches de terre pour qu'au final ça fasse une colline et puis que pour être bien sûr que personne n'aille les chercher. En fait, l'enfouissement des déchets, c'est tout simplement une gestion par l'oubli, en réalité.
Oui. Et quand même, j'ai chaque fois besoin de rappeler ça, mais en janvier, notre ministre de l'écologie et de l'énergie, c'est ça, Ségolène Royal,
oui,
a relancé fièrement le nucléaire français et a parlé de construction de centrales nucléaires, là où ça faisait un moment où on n'osait plus trop en parler de construction de nouvelles. En tout cas, voilà, pour juste montrer que notre gouvernement est plutôt fier de ces technologies dont qu'on ne maîtrise pas. Voilà, et puis on reparlera plus tard, mais pour dire qu'il va y avoir un camp à Bure cet été de protestation donc, contre ce site CIGEO.
Et pas que, ouais, c'est un camp anticapitaliste et anti-autoritaire. Qui est en fait mis en place par tout un ensemble de personnes qui ont depuis des années participé à des luttes ensemble et qui éprouvent aujourd'hui en fait le besoin de se retrouver pour partager, mettre en commun et faire un petit peu un retour sur toutes ces luttes, que ce soit les luttes féministes, les luttes pour la protection des réfugiés, les luttes antifascistes, etc., dont la lutte antinucléaire. Et du coup, ce sera un camp où il y aura 4 jours de discussion pour faire le bilan un peu de tout ça et puis essayer de réfléchir, de réinventer aussi d'autres manières de lutter, de tirer le bilan de ce qui se passe sur les ZAD actuellement. Et puis après, il y aura 4 jours qui seront plus consacrés à l'action. Donc ça, c'est du 1er au 10 août, effectivement.
Et toi, par hasard, tu sais, ils ont fait un film que j'ai vu pendant leur tournée,
ouais,
qui est absolument génial, qui dure 55 minutes pour montrer comment ce projet est passé en force et recommandé d'utilité publique.
Ouais.
Et je ne sais pas s'il est trouvable sur leur site internet, mais en tout cas, il est vraiment à voir.
Ouais, si, normalement, il est sur le site canvmcnoblogs.org. normalement, il est téléchargeable dessus, en tout cas visible.
Très bien. Eh ben, merci beaucoup d'être venu.
Je t'en prie.
Gaza des prisons, que des murs d'évasion, que des colons d'méfiance, que des exils de souffrance, que des droits des ONU, et lui dit assis dans la merde, que des silences, des cautions, des complices et des sanctions, que des tirs, te dit deuil, car les enfants ne meurent pas seuls, que des drones, des les bombes, des résistances dans le monde, que des chants, des réveils, encore sourds de la veille, alors on chante pour boycotter tout. Israël, à la boycott, 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 à la boycott. Et là tu te dis que c'est fini, car pire que ça ce serait la mort. Quand tu crois qu'Israël s'endort, quand y'en a plus, ben y'en a encore. Béatrine ou bien Jaffa, Soda Stream et puis Teva, ça prend leur vie, ça prend leur terre. Et toi tu pries pour que ça s'arrête, c'est leur voix, c'est pas la tienne. Alors tu bouges plus les oreilles, là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante.
La Palestine vivra, la Palestine vaincra,
alors on chante. Seulement quand c'est fini, alors on chante.
Donc de Stromae, c'est une reprise qui a été faite par le groupe BDS de Marseille, donc c'est Boycott Israël.
Et on va passer, on a un invité qui est Raph du collectif Jamais Sans Toi et qui vient nous parler un peu de la situation des familles de l'école Michel Servet, c'est ça?
Oui, et d'autres écoles aussi, mais surtout des familles roms qui squattaient sur les berges du Rhône, cours d'Herbouville.
Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter assez vite c'est quoi leur parcours depuis ce camp jusqu'à là où elles sont maintenant?
Alors, c'est des familles qui ont pas mal squatté à droite à gauche et qui se sont retrouvées il y a quelques mois sur les berges du Rhône, cours d'Herbouville, près du pont de la Tassigny. Il y avait 43 personnes, ce qui représentait à peu près 8 familles qui vivaient là tranquillement. Elles nous avaient pas sollicité, nous, le collectif Jamais Sans Toi, pour rappeler, c'est un collectif qui regroupe des écoles, donc ça peut être parents d'élèves, enseignants et puis riverains, autour de la question des élèves scolarisés qui dorment à la rue. Voilà, on avait occupé les écoles au mois de novembre-décembre, à peu près entre 6 et 10 écoles, pour obtenir une place d'hébergement dans le cadre du plan froid. Voilà. Et cette famille ne nous avait pas sollicité, puisqu'elle souhaitait rester tranquillement, ces familles, dans leur baraque cour d'Herbouville. Et le 10 avril, donc c'était juste le jour des vacances scolaires de printemps, à 8h du matin, elles ont été expulsées par la police, sous l'œil d'un huissier, et puis un bulldozer a rasé leur cabane. Voilà, donc elles se sont retrouvées à la rue, donc voilà, c'est des familles qui ont des ressources, qui ne nous ont pas spécialement sollicité, sauf que depuis le 10 avril, donc on a vu après que c'était cette expulsion qu'un prélude à ce qui allait se passer après, l'expulsion du squat de Gerland, Ifarge, ou des squats de Bron, et donc qui a mis quand même à peu près 400 personnes à la rue. Et ces familles-là font l'objet d'un harcèlement policier sans relâche depuis le 10 avril. C'est-à-dire qu'elles changent d'endroit tous les jours pour dormir. Donc ça peut être pont, tunnel, jardin public. Et les flics sont là pour les déloger à chaque fois.
Du coup, elles changent d'endroit contrainte par la police. Quoi.
Voilà, elles changent d'endroit contrainte par la police qui les laisse plus du tout tranquilles. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment sur les 43 personnes, il y en a à peu près une trentaine qui sont reparties, rentrées en Roumanie, alors que même leur situation là-bas était un peu périlleuse, parce que bon, elles vivent de la discrimination, voire des violences. Et celles qui ont choisi de rester, donc il y a encore 13 personnes, ce qui représente 3 familles avec une maman enceinte de 8 mois et demi plus des enfants. Ils sont venus nous trouver à l'école Michel Servet le jour de la rentrée, donc lundi soir, puisqu'elles avaient été virées du pont de l'Aide de Tassigny, où elles avaient établi un petit campement. Il pleuvait beaucoup. Là-dessus, elles ont demandé l'autorisation de dormir sous le préau de l'école. Donc il faut savoir que les écoles, en fait, après le temps scolaire, ça appartient à la ville de Lyon, enfin à la mairie, qui a refusé, qui a dit qu'ils n'avaient pas à rester là. Donc on les a accueillis un moment dans l'école pour trouver une solution. Là-dessus, les flics ont voulu un petit peu savoir ce qu'il en était. Donc on a décidé, avec les familles, de ne pas les héberger dans l'école. Il fallait qu'on trouve une autre solution, parce qu'il fallait réunir le comité de soutien. On a trouvé une solution, et hier soir, en fait, la police est venue à deux reprises. D'abord à 16h30 pour visiter la cave vérifier qu'il y avait les bagages des familles. Donc on suppose qu'elles pensaient qu'on hébergeait de manière illégale un peu ces familles.
Mais quand la police vient comme ça, vous, je sais pas qui c'est, mais on les laisse rentrer?
Normalement on les laisse pas rentrer comme ça, sauf que là elles sont rentrées en s'adressant directement à la personne qui gardait l'école le soir, donc sans prévenir la directrice de l'école maternelle et sans prévenir le directeur de l'école. On l'a su après ça. Ce qui s'est passé, c'est que c'est des policiers municipaux, donc c'est clairement la mairie centrale qui les envoyait. Donc là, on n'était pas bien contents. La police s'est présentée à nouveau aux alentours de 18h et a demandé des précisions sur l'accueil de la veille. Parce que là encore, au-delà du temps scolaire, les locaux en fait sont gérés par la ville. Et donc les directeurs et les directrices sont plus... c'est plus eux qui décident.
Ce qui n'empêche pas un certain nombre d'autres écoles, tout ce qui est plus municipal à Lyon, d'avoir accueilli des familles.
Voilà. Alors le contexte a changé. Là, il y a encore deux écoles, l'école Ampère à Oullins qui héberge des familles depuis un mois, et l'école Masno dans le troisième depuis quelques jours. Alors l'ancien préfet Carinco s'était engagé le 20 novembre dans une lettre à pas faire intervenir la police dans les écoles. Donc ça a engagé la parole de l'État, mais enfin surtout la sienne. Et le nouveau préfet, visiblement là depuis qu'il est en poste, c'est pas le voilà, c'est pas exactement la même politique. Ça reste un préfet, mais donc il se trouve que là, je sors d'une réunion où les écoles dont j'ai parlé à Oullins et dans le troisième, pour l'instant, la police n'est pas intervenue pour les expulser. Mais voilà, il se trouve que ces familles-là, en tout cas nous dans le quartier, font l'objet d'un harcèlement. Ça ne veut pas dire qu'on n'occupera pas à nouveau l'école. Mais voilà, on se demande dans quelle mesure, si on n'avait pas été là, qu'est-ce qui aurait pu se passer, en fait. Voilà. Donc voilà ce qu'il en est. Donc en fait, on a appelé la mairie du premier arrondissement, on a demandé de l'aide. Alors, on ne les avait pas non plus énormément sollicités cet hiver. Enfin, ils avaient mis une banderole, voilà. Ils ont essayé de relancer les solutions possibles d'hébergement d'urgence, parce que faut savoir que de toute façon, là pour l'instant, c'est l'État qui viole la loi, puisque le code de l'action sociale et des familles prévoit que toute personne sans abri, en situation de détresse psychique ou médicale ou même sociale, doit se voir attribuer un hébergement d'urgence. Donc là, c'est ce qu'on dénonce depuis le début avec le collectif, c'est que l'État ne respecte pas la loi, voilà, et que souvent ce sont des personnes, des citoyens, ou là pour le coup c'était des écoles qui se substituent un peu à la mission qui est celle de l'État.
Et ouais. Est-ce que, pour conclure, parce qu'on est un peu pressé par le temps, du coup là toi tu disais que là une solution temporaire et sûrement précaire a été trouvé pour les familles. Mmh. Et du coup, est-ce qu'il y a vous allez faire des actions ou enfin, c'est quoi votre...
Ah ben le but, c'est évidemment d'arriver à faire des actions pour que ces familles, elles obtiennent au moins un hébergement d'urgence assez rapidement. Voilà. Alors c'est étrange parce qu'en fait, quelque part, la mobilisation qu'on avait initiée au mois de novembre, décembre a marché, puisque toutes les familles qui étaient logées dans les écoles quasiment ont obtenu un hébergement d'urgence dans le cadre du plan froid, voire même cet hébergement a été pérennisé. On ne sait pas pourquoi pour ces familles-là, ça coince. Alors on ne sait pas vraiment à quoi joue la préfecture, l'État, la mairie de Lyon. Bon, la mairie centrale, depuis le début, non seulement elle ne nous soutient pas, bien au contraire, elle a même jamais répondu aux courriers qu'on leur avait adressés aux demandes de rendez-vous, puisque nous, on demandait aussi la réquisition des logements vides, puisque on sait qu'il y a énormément de logements vides dans la métropole, mais on n'a jamais obtenu aucune réponse. Donc, voilà, on essaye de voir un peu presque qui se joue là-dessous, sachant qu'évidemment on va continuer à soutenir ces familles et puis à essayer de trouver une solution par la mobilisation. Voilà.
Et pour rappel, vendredi dernier, il y avait eu une manif pour un rassemblement devant la préfecture contre les expulsions, parce que fin de la trêve hivernale est égale à énormément d'expulsions. Le Grand Lyon, la ville de Lyon l'a montré. Ils savent très bien expulser à partir de fin mars.
Eh ben, merci beaucoup pour ces informations et on va passer à la rubrique Il faut que ça se sache.
Écoutez, à tout moment, ils peuvent venir te prendre pour les moments qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expulser.
J'arrive pas à comprendre que je sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. C'est que les lois mises en place. C'est que les lois mises en place.
Blabla, info, contre la machine à expulser.
Alors, il faut que ça se sache court aujourd'hui, avec seulement quelques nouvelles de Calaisie. Donc, dans la nuit de dimanche 26 à lundi 27 avril, la centaine de personnes qui dormaient dans les bungalows du camp de Nord-en-Fonte ont été sorties de leur couchage par d'intenses flammes, donc des incendies. Et malgré l'intervention rapide des sapeurs-pompiers, l'incendie a ravagé deux des trois chalets construits par l'assaut Terre d'Errance en 2012. Donc hier matin ne restait, mardi ne restait plus que des cendres et quelques effets personnels carbonisés. Et si personne n'est blessé, les conséquences matérielles sont sérieuses. Donc nous avions fait une interview de la coprésidente de l'association Terre d'Errance. Donc c'est une asso de Nord-en-Fonte qui vient en aide et soutient les personnes migrantes en transit sur l'aire d'autoroute. Donc c'est en Calaisie, c'est pas directement à Calais, mais il y a beaucoup de migrants qui sont sur les aires d'autoroute pour se mettre sur les camions, sous les camions, voilà. Et donc oui, il y a pas mal de migrants qui sont sur les différentes autoroutes qui mènent à Calais et ensuite en Angleterre. Pour rappel, l'association Terre d'Errance avait construit ses baraquements et collecté des fonds pour les mettre en place, parce qu'avant les migrants ils dormaient juste dehors, et c'est pour ça que cette asso s'était créée. Et là ils appellent à une collecte des fonds pour la reconstruction. Donc vous pouvez, si vous avez un peu d'argent, faire cette collecte. Donc c'est sur un site internet qui s'appelle lepotcommuntoutattaché.fr. Et sinon l'interview de l'asso Terre d'Errance, de la coprésidente qui s'appelle Nan, vous pouvez la retrouver sur sonenlutte.net. Et donc on peut se questionner sur si c'est un incendie accidentel ou criminel. Dans tous les cas, les conditions d'accueil décentes permettraient entre autres de résoudre ce problème. Sinon, il y a eu un autre incendie à Calais, a priori criminel cette fois. On pourrait dire que c'est l'ombre de Sauvons Calais. Donc c'est à la suite, donc pour revenir à la suite des expulsions de squats et campements de l'été dernier, donc il y avait une partie des habitantes qui étaient allées s'installer dans le bois du Brûle, dans la zone industrielle des Dunes, près de l'usine Thioxyde, donc d'où le campement de ce nom, je pense que j'en ai parlé pas mal de fois. Et sous la pression de la police de ces derniers temps, ils et elles sont partis sur le nouveau bidonville d'État, près du centre Jules Ferry, emportant avec eux ce qu'ils pouvaient emporter, parce que quand la police expulse, ben ça va très vite. Et une partie des tentes et cabanes étaient restées sur place, si c'était bien organisé les migrants. Et elles servaient de réserve de matériaux, bâches, armatures de bois, palettes, pour construire de nouveaux abris dans le nouveau bidonville. Sauf qu'il y a quelques jours, ben les abris ont brûlé. Ils se trouvent à plusieurs mètres les uns des autres, parfois plus de 10 mètres. Sauf que la végétation entre eux n'a pas été touchée du tout. Il ne s'agit donc pas d'un incendie qui se serait propagé à partir d'un seul foyer. Donc le feu a été bref, il a fait fondre les bâches en plastique, mais n'a brûlé que superficiellement le bois des armatures. Donc un incendie, plus exactement une dizaine d'incendies séparés dans un laps de temps court, semblant hautement, voilà. Donc ça, ça présume vraiment d'un incendie plus criminel que accidentel. Et les exilés, eux, n'avaient aucun intérêt à brûler leurs réserves de matériaux. Soyons lucides.
Il faut que ça se sache.
Et pour finir, donc la semaine dernière, on avait pris beaucoup de temps pour parler de des morts en Méditerranée. Et le président de la République, François Hollande, a déclaré jeudi 23 avril qu'il allait proposer à l'ONU une résolution pour détruire les bateaux de passeurs en Libye. Ce en parallèle du sommet européen extraordinaire sur les naufrages en Méditerranée. Comment reconnaît-on un bateau de passeurs? Parce qu'il y a des migrants dessus.
Ouais, bah voilà, ça marche plus mon CD. C'est le moment de l'agenda en ultra speed. Alors on a quoi? On a deux manifs. Il y a le 1er mai.
Ah, le 1er mai, c'est même pas la manif parce que je sais pas où c'est le rendez-vous. Bah, c'est à 10h.
Okay.
D'accord, comme d'hab. Mais c'est aussi qu'après la manif, tout le monde peut venir avec un peu de bouffe. Un peu de bouffe, s'il vous plaît, parce que chaque année, il y a des gens qui viennent sans bouffe. Ils sont très nombreux et du coup, ceux qui en ont amené, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à amener à manger pour le fameux repas de quartier de Radio Canu. C'est Place Satonnet et l'heure, c'est après la manif. Et j'imagine que cette année, comme d'hab, le punch sera offert par la radio.
Tout à fait. Et tu voulais finir ?
Ouais. Et donc du coup, en plus du camp donc, qui a lieu du 1er au 10 août, il y a une marche, une grosse manifestation le 7 juin à Bure qui s'appelle 100 000 pas à Bure. Voilà.
Et c'est 21h01, on va vous laisser avec quelques minutes.